Chapitre 3. Retrouvailles. La plus ancienne référence connue concernant les anciens se trouve dans un manuscrit en mauvais état de la bibliothèque de Castelserre. Les vagues différences de couleur du vélin suggèrent qu'il provient d'un animal bigarré, dont aucun de nos chasseurs ne reconnaît le dessin de la robe. L'encre est un mélange de fluide d'encornet et d'extrait de racines de campagne. Elle a fort bien résisté au temps, beaucoup mieux que les encres teintées employées pour les illustrations et les enluminures du texte, qui ont non seulement pâli et bavé, mais également, en de nombreux endroits, attisé l'appétit de certaines mites. À force de mâcher le parchemin souple, l'insecte l'a rendu rigide, et certaines parties en sont désormais trop cassantes pour être déroulées. Par malheur, les dommages se sont surtout portés sur les parties centrales du rouleau, où sont comptés des épisodes de la quête du roi Sagesse, introuvable dans aucune autre archive. Ces restes lacunaires révèlent que, poussé par une grande urgence, il se mit à la recherche du pays des anciens. Les difficultés qu'il affrontait nous sont connues. Des pirates harcelaient impitoyablement ses côtes. Des fragments indiquent qu'il serait parti en direction du royaume des montagnes, mais nous ignorons ce qui pouvait l'inciter à penser qu'il atteindrait par là le pays des mythiques anciens. Malheureusement, le texte décrivant les dernières étapes de son voyage et sa rencontre avec les anciens dut être somptueusement enluminé, car à cet endroit, le parchemin se réduit à une dentelle constellée de bribes de mots et de miettes de dessins qui aiguisent la curiosité sans l'apaiser. Nous ne savons rien de cette première rencontre, et nous n'avons pas la moindre indication sur la façon dont le roi s'y prit pour s'allier les anciens. De nombreuses chansons riches en métaphores racontent comment, telles des « tempêtes », des « lames de fond », des « vengeances dorées » ou des incarnations du courroux dans une chair de granit, ils s'abattirent sur les pirates et les chassèrent loin de nos côtes. Selon les légendes, ils jurèrent à Sagesse que si les six duchés avaient encore besoin de leur aide, ils se porteraient à nouveau à notre secours. On peut s'interroger sur l'authenticité des faits. Beaucoup l'ont fait, et la diversité des mythes autour de cette alliance en est la preuve. Mais la description de l'événement lui-même, faite par le scribe du roi Sagesse, a été détruite à jamais par la moisissure et les vers. Ma chambre ne possédait qu'une seule fenêtre, étroite et haute, qui donnait sur la mer. En hiver, un volet de bois la protégeait des vents de tempête, et une tapisserie pendue par devant donnait une illusion de chaleur douillette. Je m'éveillais donc dans l'obscurité et restais un moment immobile, à la recherche de moi-même. Peu à peu, les bruits étouffés de la forteresse me parvinrent. Des bruits matinaux, très matinaux même. « Je suis chez moi », me dis-je soudain. « C'est Castelserre. » Et tout de suite après, « Molly !» fis-je tout haut, dans le noir. Je me sentais encore dolent et fatigué, mais pas épuisé. Je sortis lourdement de mon lit et affrontai le froid de la chambre. La démarche incertaine, je m'approchai de l'âtre si longtemps inutilisé et y allumai un petit feu. Il ne faudrait pas que je tarde à refaire provision de bois. Les flammes éclairaient la pièce d'une lumière jaune et vacillante. Je sortis des vêtements du coffre au pied de mon lit et m'aperçus qu'ils ne m'allaient plus. Ma longue maladie avait fait fondre mes muscles, mais je m'étais néanmoins débrouillé pour grandir des bras et des jambes, et rien n'était à ma taille. Je voulus reprendre ma chemise de la veille, mais une nuit dans des draps propres m'avait affûté le nez. Le fumet du tissu imprégné de la crasse du voyage m'était insupportable, et je replongeai dans le coffre. Je dénichai enfin une chemise marron à l'étoffe moelleuse, autrefois trop longue des bras, et qui aujourd'hui m'allait parfaitement. Je l'enfilai, ainsi que mon pantalon vert et matelassé, et mes chaussures de montagnard. Je ne doutais pas que Dame Patience ou Maîtresse Pressée, dussé-je rencontrer l'une ou l'autre, ne m'assaillît aussitôt pour remédier à la situation. Mais j'en fis la prière, pas avant que j'aie pris un petit déjeuner et fait un tour à Bourg de Castelserre. J'avais à l'esprit plusieurs endroits où je pourrais glaner des nouvelles de Molly. Le château commençait à s'agiter, mais n'était pas encore tout à fait réveillé. Je me restaurais dans les cuisines, comme quand j'étais petit, et pour ne pas changer, j'eus l'impression que nulle part ailleurs, le pain n'était plus frais, ni le gruau plus savoureux. Mijotte poussa de hauts cris en me voyant, s'émerveilla de ma taille, et sans transition, se lamenta de ma maigreur et de mon air fatigué. J'eus le pressentiment qu'avant la fin de la journée, ce genre d'observation mettrait ma patience à rude épreuve. Les allées et venues augmentant dans les cuisines, je me sauvais, non sans emporter une épaisse tartine de pain, abondamment beurrée, recouverte d'une couche de confiture de baie de rose. Puis je repris le chemin de ma chambre pour me munir d'un manteau d'hiver. À chaque salle que je traversais, la présence de Ketriken m'apparut plus évidente. Une manière de tapisserie constituée d'herbes de diverses teintes entretissées, qui représentait un paysage de montagne, décorait désormais un des murs de la petite salle. Pas question de trouver des fleurs à cette époque de l'année. Je tombais pourtant en des endroits inattendus, sur des récipients ventrus en terre cuite et remplis de cailloux, d'où pointaient des branches nues, mais gracieuses, des chardons séchés ou des roseaux. Ce n'étaient que des détails, mais bien révélateurs. Parvenu dans une des parties les plus anciennes de Castelserre, je gravis les marches poussiéreuses de la tour de guet de vérité. Par les hautes fenêtres du sommet, on avait une vue imprenable sur nos côtes. Et Vérité y montait sa garde estivale, à l'affût des assaillants. C'est de là qu'il employait la magie de l'art pour maintenir les pirates à distance, ou tout au moins nous prévenir de leur arrivée. C'était parfois une bien mince ligne de défense, et il aurait dû normalement disposer d'un clan d'assistants entraînés à l'art pour le soutenir, mais malgré mon sang de bâtard, je n'avais jamais réussi à maîtriser la versatilité de mes talents d'artiseur, et Galen, notre maître d'art, était mort avant d'avoir pu former plus qu'une poignée de disciples. Il n'y avait personne pour le remplacer, et il manquait à ses anciens élèves une véritable communion d'esprit avec Vérité. Le prince artisait donc seul contre nos ennemis, et cette tâche l'avait vieilli avant l'heure. Je craignais qu'il ne s'y épuise et ne succombe à la faiblesse intoxicante qui guette l'utilisateur excessif de l'art. En arrivant en haut de l'escalier en colimaçon, j'étais à bout de souffle, et mes jambes me faisaient mal. Je poussai la porte, et elle tourna sans heurts sur ses gonds huilés. Obéissant à une longue habitude, j'entrai sans faire de bruit. Je ne m'attendais pas vraiment à trouver le prince, ni personne d'autre. Les tempêtes hivernales nous dispensaient de surveiller l'océan, car elles gardaient nos côtes des pirates. La lumière grise de l'aube qui entrait à flots par les fenêtres aux volets grands ouverts me fit cligner les yeux. La silhouette sombre de Vérité se découpait sur le fond de ciel tourmenté. Il ne se retourna pas. « Ferme la porte, » dit-il sans élever la voix. « Avec le courant d'air de l'escalier, on se croirait dans un conduit de cheminée. » Je m'exécutai, puis restai sans bouger, frissonnant de froid. Le vent m'apporta l'odeur de la mer et je la respirai comme si j'inhalais la vie même. « Je ne pensais pas vous trouver ici, » dis-je. Il ne détourna pas le regard des vagues. « Ah, pourquoi monter alors ?» Il y avait de l'amusement dans sa voix. La question me prit au dépourvu. « Je ne sais pas exactement. Je retournais dans ma chambre et... » Je me tus, incapable de me rappeler pourquoi j'étais venu dans la tour. « Je t'ai artisé, » dit-il avec simplicité. Je réfléchis un instant. Puis, je n'ai rien senti. J'y comptais bien. Je te l'ai dit il y a bien longtemps. L'art peut être un doux murmure à l'oreille. Ce n'est pas obligatoirement un cri de commandement. Il se tourna lentement vers moi. Et lorsque mes yeux se furent accommodés à la lumière, mon cœur bondit de joie en voyant combien il avait changé. Quand j'avais quitté Castelserre à la moisson, c'était un fantôme flétri, usé par le fardeau de ses devoirs et une vigilance de tous les instants. Certes, ses cheveux sombres étaient encore parsemés de gris, mais sa solide charpente s'était à nouveau étoffée et ses yeux noirs étincelaient de vitalité. Il avait tout d'un roi. « Le mariage paraît vous réussir, mon prince, » fis-je niaisement. Il eut l'air déconcerté. « Par certains côtés, oui, » reconnut-il en rougissant comme un adolescent. Il se retourna vivement vers la fenêtre. « Viens voir mes vaisseaux, » m'ordonna-t-il. Ce fut mon tour d'être démonté. Je m'approchai de l'ouverture, regardai le port, puis la mer. « Où cela ?» demandai-je perplexe. Il me prit par les épaules et me fit pivoter dans la direction du chantier naval. Là, un long hangar en pin jaune se dressait désormais. Des hommes y entraient et en sortaient, tandis que de la fumée s'échappait de ces cheminées de forge. Noir sur la neige, je vis plusieurs immenses troncs d'arbres, les présents de mariage de Kétriken. Quelquefois, par certains matins d'hiver, je scrute la mer et je vois presque les pirates rouges. Ils viendront, je le sais. Mais d'autres fois, je vois aussi les navires dont nous disposerons pour les affronter. Ce printemps, ils tomberont sur des proies moins démunies, mon garçon. Et d'ici l'hiver prochain, je compte bien leur apprendre ce que c'est que se faire harceler. Il parlait avec une féroce satisfaction qui m'eût effrayé si je ne l'avais partagée. Nos regards se croisèrent et mon sourire refléta le sien. Soudain, son regard changea. « Tu m'as l'air dans un triste état, » me dit-il, « comme tes vêtements. Allons dans un coin où il fera meilleur et essayons de te dégoter du vin chaud et de quoi manger. » « J'ai déjà déjeuné, » répondis-je, « et je suis en bien meilleur état qu'il y a quelques mois, merci. » « Ne monte pas sur tes grands chevaux, » me morigina-t-il, « et ne me raconte pas d'histoire. La montée des escaliers t'a épuisé, et tu trembles comme une feuille. Ne me mens pas. » « Vous vous servez de l'art sur moi, » dis-je d'un ton accusateur, et il hocha la tête. J'ai senti quelques jours à l'avance que tu approchais de Castelserre, et j'ai essayé plusieurs fois de t'artiser, mais je n'ai pas réussi à attirer ton attention. Je me suis inquiété lorsque tu as quitté la route, mais j'ai compris la tactique de Burick. Je me réjouis qu'il se soit si bien occupé de toi, non seulement lors de ton retour ici, mais aussi pendant les événements de Jahampe, et je me demande bien comment le récompenser. Il faudrait quelque chose de subtil. Étant donné les personnes impliquées, une reconnaissance publique est hors de question. As-tu des suggestions? Il n'acceptera rien d'autre qu'un simple merci de votre part. Ne lui donnez pas l'impression de croire qu'il lui faut une autre rétribution. Ça le blesserait profondément. Pour ma part, je pense qu'aucun cadeau ne peut égaler ce qu'il a fait pour moi. Si vous voulez lui faire plaisir, dites-lui de faire son choix parmi les deux ans les plus prometteurs, car son cheval se fait vieux. Ça, il le comprendrait. Je réfléchis soigneusement. Oui, ça, à la rigueur, vous pourriez le faire. Merci de la permission, fit Vérité d'un ton sec. L'amusement qui perçait dans sa voix avait pris un côté acide. Ma hardiesse me stupéfia soudain. Je me suis oublié, mon prince, dis-je humblement. Un sourire détendit ses lèvres et sa main s'abattit lourdement, mais avec affection sur mon épaule. Je t'avais demandé ton avis, non? L'espace d'un instant, j'aurais juré avoir en face de moi, au lieu de mon jeune neveu, mon vieux chevalerie, en train de m'apprendre à tenir mes hommes. Ton voyage à Jahampe t'a bien changé, mon garçon. Allons, viens. J'étais sérieux en parlant de trouver un coin plus chaud et un verre de quelque chose. Kétriken voudra te voir plus tard dans la journée. Et patience aussi, j'imagine. Mon cœur se serra en écoutant la liste de plus en plus longue des tâches qui m'attendaient. Bourg de Castelserre m'attirait comme une pierre d'aimant. Mais c'était mon roi servant qui s'adressait à moi. Je m'inclinais devant sa volonté. Nous quittâmes la salle de guet et descendîmes l'escalier de la tour en devisant de choses et d'autres. Il me recommanda d'aviser maîtresse pressée qu'il me fallait une nouvelle garde-robe. Je lui demandai des nouvelles de Léon, son chien de loup. Il arrêta un jeune garçon dans le couloir et lui ordonna d'apporter du vin et des friands dans son cabinet. Puis je le suivis, non dans ses appartements, mais dans une pièce d'un étage inférieur qui m'était à la fois familière et inconnue. La dernière fois que j'y étais entré, j'ai repu le scribe s'en servait pour trier et faire sécher des herbes, des coquillages et des racines nécessaires à la préparation de ses encres, mais toute trace de son occupation avait disparu. Un feu brasillait dans le petit âtre. Vérité le réveilla du bout du tisonnier, puis y ajouta du bois, tandis que je jetais un coup d'œil sur les êtres. Je vis une grande table en chêne sculptée et deux autres plus petites, un assortiment de sièges, un portant à rouleaux de parchemin et une étagère qui avait connu des jours meilleurs, couverte d'objets divers et variés. L'ébauche d'une carte des états Calcède était étendue sur la table, les coins maintenus par une dague et trois pierres. Des bouts de parchemin jonchaient le plateau de la table, couvertes d'esquisses barrées par des notes de la main de vérité. La sympathique pagaille qui régnait sur les deux petites tables et plusieurs fauteuils ne m'était pas inconnue, et je finis par identifier dans les sédiments des objets qui autrefois parsemaient la chambre à coucher de vérité. Ayant terminé de rallumer le feu, il se redressa et sourit tristement devant mon air étonné. Ma reine servante n'a guère de patience avec le désordre. « Comment, me demande-t-elle, pouvez-vous espérer tracer des lignes précises au milieu d'un tel bric-à-brac ? » Il faut dire que sa chambre a toute la rigueur d'un camp militaire. Alors, je me réfugie ici, car je me suis vite rendu compte que j'étais incapable de travailler dans une chambre propre et rangée. Par ailleurs, je dispose ainsi d'un endroit pour mes conversations discrètes, où personne ne songe à me chercher. À peine s'était-il tu que la porte s'ouvrit, et que Charim entra, un plateau à la main. De la tête, je saluai le serviteur de vérité, qui non seulement ne sembla pas surpris de me voir, mais avait en outre ajouté à la commande de vérité un certain type de pain aux épices que j'avais toujours particulièrement apprécié. Son apparition fut de courte durée. Mine de rien, il rangea deux ou trois objets tout en ôtant quelques livres et parchemins d'un fauteuil pour me faire de la place, puis il s'éclipsa. Vérité avait tant l'habitude de sa présence qu'il parut à peine le remarquer, sauf lorsqu'ils échangèrent un bref sourire à la sortie de Charim. « Bien, » dit-il dès que la porte se fut refermée. « Fais-moi un rapport complet, depuis ton départ de Castelserre. Je ne me contentais pas de raconter mon voyage et les événements qui l'avaient émaillé. Imbre m'avait formé au métier d'espion autant qu'à celui d'assassin, et depuis l'enfance, Burick avait toujours exigé que je sois capable de lui fournir un compte-rendu détaillé de tout ce qui se passait dans les écuries en son absence. Aussi, tandis que nous nous restaurions, relatais-je à vérité tout ce que j'avais vu et fait depuis que j'avais quitté Castelserre. Après quoi, je lui résumais les conclusions que j'avais tirées de mes expériences, puis mes soupçons fondés sur ce que j'avais appris. À ce point de mon exposé, Charim revint avec un nouveau repas, et pendant que nous faisions honneur à la nourriture, Vérité limita la conversation à ses navires de guerre. Il ne pouvait dissimuler l'enthousiasme qui lui inspirait. « Gongrema est venu diriger la construction. Je suis allé en personne le chercher à Haute Dune. Il avait commencé par se prétendre trop vieux. Le froid me raidirait les os, je ne peux plus construire de bateau en hiver. » Tel était le message qu'il m'avait fait parvenir. Alors j'ai mis les apprentis au travail et je suis allé le trouver moi-même. Devant moi, il n'a pas pu dire non. Quand il est arrivé, je l'ai emmené au chantier et je lui ai montré le hangar chauffé, assez grand pour abriter un navire de guerre, que j'avais fait bâtir pour qu'il puisse travailler sans avoir froid. Mais ce n'est pas ça qui a emporté le morceau. C'est le chêne blanc qu'avait apporté Ketriken. Quand il a vu les troncs, la plane s'est mise à le démanger. Il faut dire que ce bois a un fil parfaitement droit et régulier partout. Le vaigrage est déjà bien avancé. Cela va faire de splendides vaisseaux, gracieux comme des cygnes, sinueux comme des serpents sur l'eau. Il irradia la passion, et je voyais déjà les rames monter et descendre, les voiles carrées se gonfler sous le vent. Puis nous poussâmes de côté assiettes, couverts et reliefs du repas, et il entreprit de m'interroger sur les événements de Jaamp, après quoi il me fit reconsidérer chaque incident sous tous les angles possibles. Quand il en eut terminé, j'avais revécu toute l'aventure, et ma colère d'avoir été trahi s'était embrasée d'un feu nouveau. Vérité s'en était rendu compte. Il se pencha en arrière dans son fauteuil pour saisir une bûche et la jeta dans le feu, déclenchant un geyser d'étincelles dans la cheminée. « Tu as des questions ? » fit-il. « Cette fois, tu peux les poser. » Il se croisa les mains sur le ventre et se tut. Je m'efforçais de maîtriser mes émotions. « Le prince royal, votre frère, dis-je d'un ton circonspect, est coupable de la plus haute trahison. » Il a fomenté l'assassinat du frère aîné de votre épouse, le prince Rurisk, et ourdi un complot qui devait entraîner votre mort. Il visait à la fois à usurper votre couronne et votre fiancé. Et, à titre d'amuse-gueule, il a essayé à deux reprises de me tuer, ainsi que Burick. Je m'interrompis le temps de reprendre mon souffle et une voix moins tendue, et d'apaiser les battements de mon cœur. Nous savons, toi et moi, que ces déclarations sont exactes. « Mais nous aurions du mal à l'éprouver, » observa Vérité d'un ton posé. Et c'est là-dessus qu'il compte, m'exclamai-je. Je détournai le visage en attendant de recouvrer mon sang-froid. L'intensité de ma fureur m'effrayait, car je m'étais interdit de lui laisser libre cours jusqu'à cet instant. Des mois auparavant, alors que j'employais toute mon intelligence à survivre, je l'avais mise de côté pour conserver l'esprit clair. Ensuite avaient suivi des mois de convalescence, où je m'étais étiolé à combattre les résultats de la tentative d'empoisonnement de Royal. Même à Burick, je n'avais pas pu me livrer entièrement, car Vérité m'avait très clairement fait comprendre qu'il souhaitait voir le moins de personnes possible au courant de la situation. À présent, j'étais face à mon prince, et la force de ma colère me faisait trembler. Soudain, une série de spasmes violents me convulsa le visage. J'en fus si effrayé que je parvins enfin à me contraindre au calme. « C'est là-dessus que compte Royal, » répétai-je d'un ton plus mesuré. Vérité n'avait pas bronché ni changé d'expression malgré mon éclat. Assis devant la table, l'air grave, les mains tranquillement croisées, il m'observait de son regard sombre. Je baissai les yeux et suivis du doigt les volutes sculptées dans le bois de la table. « Il n'a aucune admiration pour votre façon de respecter les lois du royaume. Pour lui, c'est une faiblesse ou un moyen d'échapper à la justice. Il essaiera peut-être de vous tuer à nouveau. En tout cas, il tentera de se débarrasser de moi, c'est pratiquement sûr. « Nous devons donc faire preuve de prudence, toi et moi, » observa Vérité d'un ton égal. Je levai les yeux et le regardai. « C'est tout ce que vous avez à me dire ? » fis-je d'une voix tendue, en étouffant mon indignation. « Fitz Chevalerie, je suis ton prince. Je suis ton roi servant. Tu es mon homme liege, autant que celui de mon père et, par voie de conséquence, de mon frère. » Vérité se leva soudain et se mit à arpenter la pièce. « La justice. Nous l'appelons toujours de nos vœux, et nous en sommes toujours privés. Non. Nous devons nous contenter de la loi, et c'est d'autant plus vrai que le rang est élevé. En toute justice, tu devrais occuper la première position dans la ligne de succession au trône, Fitz, puisque Chevalerie était mon frère aîné. Mais la loi dit que tu es né hors des liens du mariage, et que tu ne peux donc pas prétendre à la couronne. Certains pourraient soutenir que j'ai volé le trône au fils de mon frère. Dois-je alors m'offusquer que mon frère cadet cherche à me l'enlever ? Jamais je n'avais entendu Vérité parler ainsi, d'une voix si unie, mais si pleine d'émotion. Je gardais le silence. « Tu penses que je devrais le punir ? Je le pourrais. » Je n'aurais pas besoin de prouver ses méfaits pour lui rendre l'existence pénible. Je pourrais inventer une mission, l'envoyer à Beffroide et le maintenir là-bas dans des conditions inconfortables et loin de la cour, ce qui reviendrait presque à l'exiler. Ou encore, le garder ici, à Castelserre, mais le surcharger à tel point de corvées détestables qu'il n'aurait plus de temps pour ses plaisirs personnels. Il comprendrait qu'il est sous le coup d'une punition, ainsi que tous les nobles à l'esprit un tant soit peu éveillé. Tous ses sympathisants voleraient à sa défense. Les duchés de l'intérieur prétexteraient une urgence quelconque au pays natal de sa mère pour rapatrier son fils chez eux. Et, une fois là-bas, il renforcerait sa base de soutien. Il serait bien capable de déclencher l'agitation civile qu'il attend depuis longtemps et de fonder un royaume de l'intérieur loyal à lui seul. Mais, même s'il n'y parvenait pas, il pourrait attiser un malaise suffisant pour réduire à néant l'unité dont j'ai besoin pour défendre le royaume. » Il se tut et promena son regard sur la pièce. J'en fis autant. Les murs étaient tapissés de cartes dessinées de sa main. Là, Béarn, plus loin, Orfond, ici Ripon, en face, Serre, Bauge et Labour. Toutes tracées d'une plume assurée, chaque cours d'eau à l'encre bleue, chaque ville désignée par son nom. C'étaient ces six duchés. Il les connaissait comme jamais Royal ne les connaîtrait. Il avait circulé à cheval sur ses routes, aidé à placer les bornes des frontières. À la suite de chevalerie, il avait traité avec les peuples limitrophes. Il avait brandi l'épée pour défendre nos terres et su quand la ranger pour négocier la paix. Qui étais-je pour lui dire comment gouverner son pays ? Qu'allez-vous faire ? Demandai-je calmement. Le gardait. C'est mon frère, et le fils de mon père. Il se resservit du vin. Son dernier fils, son préféré. Je suis allé trouver le roi pour lui suggérer que Royal se satisferait peut-être mieux de son sort si on lui confiait une part plus grande de la conduite du royaume. Le roi subtil y a consenti. Je pense être fort occupé par la défense de notre terre contre les attaques des pirates rouges. À Royal, reviendra donc la tâche de prélever les impôts dont nous aurons besoin et aussi de régler tous les troubles internes qui pourraient surgir. Avec un groupe de nobles pour l'assister, naturellement. Je lui laisse avec plaisir le soin d'aplanir leurs querelles et leurs dissensions.
Et Royal est satisfait ?
Vérité eut un mince sourire. Il ne peut pas dire le contraire, s'il souhaite conserver l'image d'un jeune homme habile à gouverner et qui n'attend que l'occasion d'en faire la preuve.
Il prit son verre de vin et se perdit dans la contemplation des flammes.
Pendant un moment, le seul bruit dans la pièce fut le crépitement du bois qui se consumait. Puis Vérité reprit. Quand tu viendras me voir demain ?
Je l'interrompis.
Demain, il me faut ma journée.
Il reposa son verre et se tourna vers moi.
Tiens donc, dit-il d'un ton étrange. Je croisai son regard et ma gorge se serra.
Je me levai.
Mon prince, fis-je avec solennité, je vous demande humblement la permission d'être relevé de mes devoirs pour demain, afin d'accomplir une mission personnelle.
Il ne répondit rien pendant un moment, puis...
Ah, rassieds-toi, Fitz. C'était mesquin de ma part. À force de penser à Royal, j'attrape son état d'esprit. Bien sûr que tu peux prendre ta journée, mon garçon. Et si quelqu'un te pose des questions, tu diras que tu obéis à mes ordres. Puis-je te demander ce qu'est cette mission urgente ?
Je regardais les flammes qui bondissaient dans l'âtre. Je connaissais quelqu'un à Vasbey. Je voudrais savoir si...
Oh, Fitz.
La compassion que je sentis dans la voix de Vérité me heurta de plein fouet. La fatigue déferla soudain sur moi, et je me rassis avec soulagement. Mes mains se remirent à trembler. Je les posai sur la table et les serrai l'une contre l'autre pour les calmer. Je sentais toujours les spasmes qui les agitaient, mais au moins ma faiblesse n'était plus visible. Vérité s'éclaircit la gorge.
« Retourne dans ta chambre et repose-toi, » me dit-il avec sympathie. « Veux-tu que quelqu'un t'accompagne à Vasbey demain ?»
Je fis non de la tête, pris d'une brusque et accablante certitude de ce que j'allais y découvrir. J'en eus la nausée, et une nouvelle convulsion me traversa. Je m'efforçais de respirer lentement afin de me calmer et d'éloigner la crise qui menaçait. L'idée de m'humilier ainsi devant Vérité m'était insupportable.
« Tu es très malade, » fit le prince. Et j'ai honte de l'avoir oublié.
Il s'était levé sans bruit. Il posa son verre de vin devant moi.
C'est à cause de moi que tu es dans cet état. Je suis épouvanté de ce qui t'a été infligé et que j'ai laissé faire.
Non sans mal, je soutins son regard. Il savait tout ce que j'essayais de dissimuler, et il était rongé de culpabilité.
Les crises sont rarement aussi dures. Dis-je pour le rassurer.
Il sourit, mais son expression ne changea pas.
Tu mens très bien, Fitz. Ne crois pas que ta formation te fasse défaut. Mais tu ne peux mentir à quelqu'un qui, comme moi, a passé tant de temps en ta compagnie, pas seulement ces derniers jours, mais souvent aussi pendant ta maladie. Si un autre te dit « Je sais ce que tu ressens », tu peux n'y voir qu'une formule de politesse. Mais de ma part, prends-le comme la vérité. Et je sais qu'il en est pour toi, comme pour Burick. Je ne te proposerai donc pas de choisir un poulain d'ici quelques mois. En revanche, je t'offre mon bras, si tu le souhaites, pour t'aider à regagner ta chambre.
Je peux y arriver seul, répondis-je d'un ton guindé.
Je n'ignorais pas l'honneur qu'il me faisait, mais il percevait ma faiblesse avec trop d'acuité. J'avais envie d'être seul, de me cacher.
Il hocha la tête, compréhensif.
Quel dommage que tu ne maîtrises pas l'art. Je pourrais te donner ma force, comme je te l'ai trop souvent prise.
Je ne pourrais pas l'accepter, marmonnai-je, incapable de dissimuler mon dégoût à l'idée de puiser dans l'énergie d'un autre pour remplacer la mienne. je regrettais aussitôt la honte fugace que je vis dans les yeux de mon prince. Moi aussi, autrefois, je pouvais parler avec autant d'orgueil, dit-il à mi-voix. Va te reposer, mon garçon. Il se détourna lentement de moi et se remit à ses ancres et à ses vélins. Je sortis sans bruit. Nous étions restés enfermés toute la journée. Il faisait nuit noire. Il régnait dans le château l'ambiance feutrée d'une soirée d'hiver. Les tables desservies, les habitants devaient être rassemblés autour des cheminées. Des ménestrels chantaient peut-être, ou bien un marionnettiste dévidait le fil d'une histoire au rythme des mouvements de ces personnages dégingandés. Certains regardaient le spectacle tout en taillant des flèches, d'autres en maniant l'aiguille. Les enfants jouaient à la toupie, comparaient leurs résultats de jeu ou somnolaient contre les genoux ou les épaules de leurs parents. Tous étaient en sécurité. Dehors, les tempêtes d'hiver soufflaient, protectrices. Avec la démarche prudente d'un ivrogne, j'évitais les salles communes où l'on se réunissait pour la soirée. Les bras croisés, le dos voûté comme si j'essayais de me réchauffer, je parvins à calmer mes tremblements. Je gravis un premier escalier d'un pas lent en faisant mine d'être perdu dans mes pensées. Sur le palier, je m'autorisai une halte, comptai jusqu'à 10, puis m'apprêtai à monter les marches suivantes. Mais alors que je posais le pied sur la première, Brodette apparut au-dessus de moi dans l'escalier. Boulotte, et d'une vingtaine d'années plus âgée que moi, elle descendait pourtant les degrés du pas mondissant d'une gamine. Arrivée en bas, elle me saisit le bras en s'écriant « Le voilà !» comme si j'étais une paire de ciseaux qu'elle avait égarés. Elle a fermé sa prise et me fit pivoter vers le couloir. « J'ai bien dû grimper et descendre cet escalier 10 fois dans la journée, mais comme vous avez grandi !» Dame Patience est dans tous ses états, et c'est votre faute. Elle attend depuis ce matin que vous frappiez à sa porte. Elle était aux anges de vous savoir enfin revenu. » Elle se tut et leva vers moi ses yeux d'oiseau brillant. « C'était ce matin, » fit-elle du ton de la confidence. Puis, « Mais, c'est que vous êtes vraiment malade. Oh, quelle cerne vous avez sous les yeux !» Sans me laisser le temps de répondre, elle poursuivit. « En début d'après-midi, comme vous n'arriviez pas, elle a commencé à se sentir insultée et à s'énerver. Au dîner, votre grossièreté l'avait mise dans une colère telle qu'elle n'a presque rien mangé. Depuis, elle a décidé de croire les rumeurs sur votre maladie. Elle est convaincue que vous êtes soit prostré dans un coin du château, soit aux écuries, où Burick vous a obligé à rester pour les nettoyer malgré votre santé. Mais maintenant que vous êtes là, entrez par ici. Je le tiens, madame !» Et elle me poussa dans les appartements de Patience. Tout le temps de son monologue, j'avais senti un fond curieux dans ses paroles, comme si elle évitait un sujet particulier. J'entrai d'un pas hésitant en me demandant si Patience elle-même avait été malade ou s'il lui était arrivé quelque malheur. En tout cas, cela n'avait pas affecté ses habitudes. Son antre était à peu près tel que je l'avais toujours connu. Les plantes avaient grandi, s'étaient accrochées un peu plus loin, avaient perdu des feuilles. Une strate d'éléments hétéroclites, résultat de ses nouvelles passions, recouvrait les sédiments des anciennes. Deux colombes étaient venues s'ajouter à la ménagerie et une dizaine de fers à cheval étaient éparpillés dans la pièce. Une grosse bougie à la baie de laurier brûlait sur la table en exhalant un agréable parfum, mais en dégoulinant aussi sur un plateau de fleurs et d'herbes séchées. Une botte de curieux bâtonnets sculptés était également menacée. On aurait dit les baguettes à prédire l'avenir dont se servent les Kiourda. À mon entrée, sa solide petite chienne terrier vint me saluer. Je me baissai pour la caresser. Puis l'inquiétude me prit. Allais-je arriver à me redresser? Pour camoufler mon hésitation, je ramassai précautionneusement une tablette qui traînait par terre. Visiblement ancienne et sans doute rare, elle traitait de l'usage des baguettes prédictrices. Patience se détourna de son métier à tisser pour me saluer. « Allons, relève-toi, tu es ridicule !» s'exclama-t-elle en voyant ma position. « Se mettre un genou en terre, quelle bêtise ! À moins que tu n'espères me faire oublier ainsi ta grossièreté de n'être pas venu me rendre visite tout de suite. Qu'est-ce donc que tu m'apportes là? Oh, quelle gentille attention! Comment savais-tu que j'étais justement en train de les étudier? Tu sais, j'ai fouillé les bibliothèques du château de fond en comble et je n'ai pas trouvé grand-chose sur ces baguettes. » Elle me prit la tablette des mains et me remercia d'un sourire de mon prétendu cadeau. Dans son dos, Brodette me fit un clin d'œil, auquel je répondis par un haussement d'épaule imperceptible, puis je ramenai mon regard sur Dame Patience, qui déposait la plaque de bois sur une pile brûlante d'autres semblables. Elle se retourna vers moi et me considéra un moment avec affection. Puis elle fit un effort pour prendre l'air sévère. Ses sourcils se froncèrent au-dessus de ses yeux noisettes, tandis que sa petite bouche se pinçait fermement. Malheureusement, l'effet général était un peu gâté par le fait qu'elle ne m'arrivait plus aujourd'hui qu'à l'épaule, sans parler des deux feuilles de lierre accrochées dans ses cheveux. « Excusez-moi, » dis-je, et je les retirai audacieusement de ses boucles indisciplinées. Elle me les prit avec grand sérieux, comme si elles avaient beaucoup d'importance, et les posa sur les tablettes. « Où étais-tu passé tout ce temps alors qu'on avait besoin de toi ici ?» demanda-t-elle d'un ton âpre. La fiancée de ton oncle est arrivée il y a des mois. Tu as manqué le mariage solennel. Tu as manqué les banquets, les festivités et la réunion des nobles. Je me dépense sans compter pour qu'on te traite en fils de prince et toi, tu te défiles devant toutes tes obligations sociales. Et quand tu rentres enfin, au lieu de venir me voir, tu erres par tout le château, où tout le monde risque de te voir, vêtu de haillons comme un rétameur. Qu'est-ce qui t'a pris de te couper les cheveux ainsi ? L'épouse de mon père, à l'origine horrifiée d'apprendre que son mari avait engendré un bâtard avant leur union, était passée envers moi de la détestation à la gâterie agressive. Et c'était parfois plus difficile à supporter que si elle m'avait purement et simplement rejeté. Elle poursuivit sur le même ton. « N'as-tu pas songé que des devoirs t'attendaient peut-être ici ? Des devoirs plus importants que de courir par monts et par veaux avec Burick pour admirer des chevaux ?»« Je vous demande pardon, madame. » L'expérience m'avait enseigné à ne jamais discuter avec Patience. Son excentricité ravissait le prince chevalerie. Moi, elle m'étourdissait dans le meilleur des cas, et ce soir, elle m'accablait. J'ai été malade quelque temps. Je n'étais pas en état de voyager. Et le temps que je me remette, le temps ne s'y prêtait plus. Je regrette d'avoir manqué le mariage. Et c'est tout. C'est l'unique raison de ton retard. Elle parlait d'un ton sec, comme si elle soupçonnait quelque odieuse tromperie. « En effet, » répondis-je gravement. « Néanmoins, j'ai pensé à vous. J'ai quelque chose pour vous dans mes pactages. Je ne les ai pas encore remontés des écuries, mais je le ferai demain. « Qu'est-ce que c'est ? » demanda-t-elle vivement, curieuse comme une enfant. J'inspirai profondément. J'éprouvais une atroce nostalgie de mon lit. C'est une sorte d'herbier. Tout simple, car ce sont des objets délicats et les plus décorés n'auraient pas résisté au voyage. Les Kiourda ne se servent pas comme nous de tablettes ni de parchemins pour enseigner les plantes. Il s'agit d'un coffret de bois. Lorsque vous l'ouvrirez, vous y trouverez des miniatures en cire des herbes, teintées à leur couleur exacte et imprégnées de leurs parfums respectifs, de façon à les rendre plus faciles à identifier. Les descriptions sont en Kiourda, naturellement, mais j'ai pensé que ce cadeau vous plairait tout de même. Cela m'a l'air très intéressant, dit-elle, les yeux brillants. J'ai hâte de le voir. Brodette se glissa dans la conversation. Voulez-vous que je lui avance un siège, madame ? Il me semble encore fatigué.
Oh, bien sûr, Brodette.
Assieds-toi, mon garçon. Dis-moi, de quelle maladie as-tu souffert ? J'ai mangé une plante de là-bas et j'y ai réagi violemment. Voilà, je n'avais pas menti. Brodette m'apporta un petit tabouret, et je m'y assis avec soulagement. Une vague de lassitude me traversa.
Je vois.
Et le chapitre de ma maladie fut clos. Elle prit une inspiration, jeta un coup d'œil autour d'elle, puis me demanda à brûle-pourpoint.
Dis-moi, as-tu déjà songé au mariage ?
Cette façon de passer du coq à l'âne était si typique de Patience que je ne pus m'empêcher de sourire. J'essayais pourtant de réfléchir à la question. Un instant, j'eus la vision de Molly, les joues rougies par le vent qui jouait avec ses cheveux sombres. Molly. Demain, me promis-je. Vasbey.
Fitz, cesse. J'ai horreur que tu me regardes ainsi, comme si je n'étais pas là. Entends-tu ? Te sens-tu bien ?
Non sans mal, je revins à moi.
Pas vraiment,
répondis-je franchement. La journée a été fatigante.
Brodette, va lui chercher une coupe de vin de sureau. Il a l'air complètement épuisé.
Ce n'est peut-être pas le moment idéal pour converser, ajouta Dame Patience d'un ton hésitant. Pour la première fois de la soirée, Elle m'observa réellement, et je vis une inquiétude non feinte apparaître dans ses yeux. Au bout d'un moment, elle conclut doucement. « Je ne connais peut-être pas tous les tenants et aboutissants de tes aventures. » Je baissai les yeux vers mes chaussures matelassées de montagnard. L'envie de lui révéler la vérité voleta un instant dans mon esprit. Puis, elle retomba et se noya dans le danger que je lui ferais courir en lui avouant tout. Un long voyage, de la nourriture de mauvaise qualité, des auberges crasseuses, aux lits durs et aux tables collantes, voilà qui les résume. Je ne pense pas que les détails vous intéressent. Il se produisit alors un curieux événement. Nos regards se croisèrent, et je sus qu'elle n'était pas dupe de mon mensonge. Elle hocha lentement la tête pour signifier qu'elle en acceptait la nécessité. Puis, elle détourna les yeux. Combien de fois mon père lui avait-il raconté de semblables mensonges, me demandai-je. Et que lui en avait-il coûté, d'y acquiescer. Brodette me plaça fermement une coupe de vin dans la main. Je la portai à mes lèvres, et la douceur piquante de la première gorgée me ragaillardit. Je tins le récipient à deux mains, et m'efforçai de sourire à patience. « Dites-moi, » fis-je d'une voix chevrotante comme celle d'un vieillard. Je m'éclaircis la gorge pour l'affermir. « Comment allez-vous vous-même ? J'imagine qu'avec l'arrivée d'une reine à Castelserre, vous êtes très occupé. Parlez-moi de ce que j'ai manqué. »«
Oh !»
dit-elle en tressaillant comme si elle s'était piquée. Elle détourna de nouveau les yeux. « Tu me connais, je suis une solitaire, et ma santé n'est pas toujours solide. » Veiller tard, danser, bavarder, tout cela m'oblige ensuite à garder le lit pendant deux jours. Non, je me suis présenté à la reine et j'ai partagé sa table en une ou deux occasions. Mais elle est jeune, affairée et toute prise par sa nouvelle vie. Moi, je suis vieille, excentrique et j'ai mes propres passions. Ketriken a comme vous l'amour des plantes, dis-je. Elle serait sans doute très intéressée. Un brusque tremblement m'ébranla jusqu'aux os et mes dents se mirent à claquer. J'ai un peu froid, c'est tout. Je m'excusai et levai encore une fois ma coupe. Je m'en déversai la moitié dans la bouche au lieu de la petite gorgée que j'avais prévue. Puis, un spasme me secoua les mains, et je m'éclaboussai le menton et la chemise. Je me levai d'un bond consterné, et mes doigts perfides lâchèrent la coupe. Elle tomba sur le tapis, et roula un peu plus loin en laissant une traînée de liquide sombre comme du sang. Je me rassis brutalement, et serrai mes bras contre moi pour apaiser mes tremblements. « Je suis très fatigué, » dis-je faiblement. Brodette s'approcha, munie d'un tissu, et voulut me le passer sur le visage, mais je le lui pris des mains, m'essuyai le menton, puis épongeai le plus gros du vin qui imbibait ma chemise. Mais quand je m'accroupis pour nettoyer le tapis, c'est tout juste si je ne m'effondrais pas en avant. « Non, Fitz, ne t'occupe pas des tâches. Nous pouvons le faire nous-mêmes. Tu es épuisé et plus qu'à demi-malade. » Va te coucher. Reviens me voir lorsque tu seras reposé. J'ai un sujet grave dont je veux discuter avec toi, mais cela peut attendre encore une nuit. Allons, va-t'en, mon garçon. Va dormir. Je me relevai, soulagé de ce répit, et m'inclinai poliment mais avec prudence. Brodette me raccompagna à la porte, d'où elle me suivit d'un œil inquiet jusqu'à ce que je fusse au palier. Je m'efforçai pour ma part de marcher comme si le sol et les murs ne dansaient pas. Je m'arrêtai au bas des escaliers pour lui adresser un signe de la main, puis commençai à monter. Trois marches plus haut, hors de vue, je fis halte pour m'appuyer au mur et reprendre mon souffle. Je fis un écran de mes mains pour m'abriter de la vive lumière des chandelles. Des vagues de vertige me balayaient. Lorsque je rouvris les yeux, des brumes aux couleurs d'arc-en-ciel flottaient aux limites de ma vision. Je refermai les paupières et les pressai de mes paumes. J'entendis des pas légers qui descendaient l'escalier. Ils s'arrêtèrent deux marches au-dessus de moi. « Vous allez bien, messire ?» demanda une voix hésitante. « J'ai un peu trop bu, » mentis-je. De fait, le vin dont je m'étais éclaboussé me donnait l'odeur d'un ivrogne. « Ça ira mieux dans un petit moment. »« Laissez-moi vous aider à monter. Ça pourrait être grave si vous trébuchiez dans les escaliers. » Le ton était sec et réprobateur. J'ouvris les yeux et regardai entre mes doigts. Une jupe bleue, de ce tissu sans apprêt que portaient toutes les servantes. Celle-ci avait sûrement déjà eu affaire à des buveurs éméchés. Je refusai d'un signe de la tête, mais elle passa outre, comme je l'aurais fait à sa place. Je sentis une main ferme m'empoigner le coude, tandis qu'un bras m'encerclait la taille.
« Allez, on va vous emmener en haut !»
me dit-elle d'un ton encourageant. Je m'appuyai sur elle malgré moi, et le pas chancelant, je parvins au palier suivant.
« Merci, » marmonnai-je.
Je pensais qu'elle allait me laisser là, mais sa poigne ne se relâcha pas.
« Vous êtes sûr que c'est le bon étage ? Les quartiers des serviteurs sont au-dessus, vous savez. »
Je hochai la tête tant bien que mal.
« La troisième porte, si ça ne vous dérange pas. »
Elle ne dit rien pendant un long moment, puis
« C'est la chambre du bâtard !»
Il y avait un défi glacé dans sa voix. Je ne bronchais pas. Je ne relevais même pas la tête.
« Oui, vous pouvez vous en aller maintenant. »
J'avais pris un ton aussi froid que le sien pour la congédier. Mais loin de s'en aller, elle s'approcha au contraire. Elle m'empoigna les cheveux et me redressa la tête sans douceur.
« Le nouveau ? »
s'exclama-t-elle avec fureur.
« Je devrais te laisser t'affaler là où tu es !»
Je me reculai convulsivement, incapable d'accommoder correctement. Je la reconnus néanmoins, à la forme de son visage, à ses cheveux qui tombaient sur ses épaules, à son parfum qui évoquait un après-midi d'été.
Un violent soulagement déferla en moi. C'était Molly, ma Molly, la chandelière. « Tu es vivante !»
m'écriai-je. Mon cœur bondissait dans ma poitrine, comme un poisson au bout d'une ligne. Je la serrai contre moi et l'embrassai. Enfin, j'essayai du moins, mais elle me tint à distance et dit d'un ton sec.
« Jamais je n'embrasserai un ivrogne. C'est une promesse que je me suis faite et que je tiendrai toujours, et je ne laisserai jamais un ivrogne m'embrasser. »
« Je ne suis pas ivre, je suis malade, » protestai-je. La soudaine émotion que j'éprouvais me faisait plus que jamais tourner la tête, et je chancelais.
« Mais c'est sans importance. Tu es ici, et tu es vivante. »
Elle me raffermit sur mes pieds, réflexe qu'elle avait appris en s'occupant de son père.
« Ah, je vois, tu n'es pas ivre. »
Le dégoût le disputait à l'ironie dans son ton. « Et tu n'es pas non plus l'apprenti du scribe, ni palefrenier. Tu commences toujours par mentir aux gens que tu rencontres.
En tout cas, on dirait que tu termines toujours par là. »«
Je n'ai pas menti, » fis-je plaintivement, déconcerté par sa colère. J'aurais voulu voir clairement son expression.
Seulement, je ne t'ai pas dit tout. C'est trop compliqué. Molly, si tu savais comme je suis heureux de te voir en bonne forme, et ici à Castelserre. Et moi qui croyais devoir te chercher.
Elle me tenait toujours droit.
Je ne suis pas ivre, je te le jure.
C'est vrai, j'ai menti à l'instant parce que j'avais honte d'avouer ma faiblesse.
Et c'est pour ça que tu mens?
Sa voix mordait comme un fouet.
Tu devrais plutôt avoir honte de mentir le nouveau, à moins que le fils d'un prince en ait le droit.
Elle me lâcha et je m'écroulai contre un mur. Je m'efforçai de ressaisir mes pensées tourbillonnantes tout en restant debout. « Je ne suis pas fils de prince, » fis-je enfin. « Je suis un bâtard. Ce n'est pas la même chose. Et ça aussi, j'avais trop honte pour l'avouer. Mais je n'ai jamais prétendu devant toi ne pas être le bâtard. Quand j'étais avec toi, j'étais le nouveau, c'est tout. C'était agréable d'avoir quelques amis qui voyaient en moi le nouveau, et non le bâtard. » Molly ne répondit pas, m'agrippa rudement par le devant de ma chemise et me traîna dans le couloir jusqu'à ma chambre. J'étais sidéré de la force que pouvait avoir une femme en colère. Elle donna un coup d'épaule à ma porte comme s'il s'agissait d'un ennemi personnel et me remorqua vers mon lit. Dès que j'en fus assez près, elle me lâcha et je m'effondrai contre le châssis. Je me redressai, puis parvins à m'asseoir. En serrant mes mains l'une contre l'autre entre mes genoux, j'arrivai à maîtriser mes tremblements. Dressée au-dessus de moi, Molly me foudroyait du regard. Je la voyais mal. Sa silhouette était floue, son visage indistinct, mais rien qu'à sa pose, je la savais hors d'elle. Au bout d'un moment, je dis d'un ton mal assuré. « J'ai rêvé de toi pendant que j'étais parti. » Elle garda un silence obstiné, et je repris un peu courage. « J'ai rêvé que tu étais à Vasbey pendant l'attaque. » L'effort que je faisais pour m'empêcher de chevroter rendait ma voix âpre. J'ai vu des incendies, et des pirates qui lançaient des assauts. Il y avait deux enfants que tu devais protéger. J'avais l'impression que c'était les tiens. Son silence se dressait comme une muraille contre mes paroles. Elle devait me prendre pour le dernier des simples d'esprit, à raconter mes rêves en bafouillant. Mais pourquoi? Pourquoi de toutes les personnes qui auraient pu me voir ainsi déchu, fallait-il que je sois tombé sur Molly? Le silence s'éternisait. Mais tu étais ici, à Castelcerf, en sécurité. J'essayais de raffermir ma voix tremblante. J'en suis heureux. Mais que fais-tu ici? Ce que je fais ici. Elle parlait d'un ton aussi tendu que moi, glacé par la colère, dans lequel je perçus toutefois, me sembla-t-il, de la peur. J'étais venu chercher un ami. Elle se tut et respira profondément. Lorsqu'elle reprit la parole, sa voix était calme, presque tendre. Mais ce n'était qu'une apparence, je le savais. Mon père est mort en ne me laissant que des dettes, et les créanciers m'ont pris la boutique. Je me suis alors rendu chez des parents, pour les aider à faire les moissons et gagner un peu d'argent. C'était à Vasbey. Je ne vois vraiment pas comment tu as pu le savoir. J'avais désormais un petit pécule, mon cousin était d'accord pour me prêter le reste, la moisson avait été bonne, et je devais rentrer à Castelcerf le lendemain. Mais les pirates ont attaqué Vasbey. J'y étais. Avec mes nièces. Sa voix mourut. Nous revîmes ensemble la scène. Les bateaux, les incendies, la femme qui riait une épée à la main. Je levai les yeux vers Molly et parvins presque à la distinguer nettement. J'étais incapable de parler. Mais son regard était lointain, perdu au-delà de moi. Elle reprit posément. Mes cousins n'avaient plus rien, mais ils s'estimaient heureux car leurs enfants avaient survécu. Il n'était plus question de leur demander de me prêter de l'argent. D'ailleurs, ils n'auraient même pas eu de quoi me payer le travail que j'avais déjà fait, si l'idée m'avait prise de réclamer mon dû. Je suis revenu à Castelcerf. L'hiver approchait et je n'avais nulle part où loger. Alors je me suis dit, j'ai toujours été ami avec le nouveau. S'il y a une personne à qui je puisse demander de l'argent pour me dépanner, c'est bien lui. Je suis donc monté au château et j'ai dit que je cherchais le coursier du scribe. Mais personne n'avait l'air de savoir de qui je parlais. Et on m'a envoyé voir Gérepu. Lui, il m'a écouté te décrire, puis il a froncé les sourcils et m'a envoyé voir Patience. Molly fit une pause pleine de sous-entendus. J'essayais d'imaginer leur rencontre, mais c'était trop effrayant. Elle m'a engagé comme chambrière, reprit Molly à mi-voix. Elle m'a dit que c'était le moins qu'elle pouvait faire après l'humiliation que tu m'avais fait subir.
L'humiliation ?
Je me redressai brusquement. Le monde se mit à tanguer autour de moi, et mon champ de vision explosa en une pluie d'étincelles.
Comment ? Comment t'ai-je humilié ?
Molly ne haussa pas le ton. Elle a dit que tu avais manifestement gagné mon affection. Après quoi tu m'avais abandonné. Croyant que tu pourrais un jour m'épouser, je t'avais laissé me faire la cour.
Mais je ne...
La voix me fit défaut. Puis...
Nous étions amis.
J'ignorais que tu avais des sentiments différents.
Tu l'ignorais.
Elle leva le menton. Je connaissais cette attitude. 6 ans plus tôt, elle aurait été suivie d'un coup de poing dans le ventre, et je tressaillis involontairement. Mais Molly poursuivit d'une voix encore plus basse.
J'aurais dû m'attendre à ce genre d'excuse. C'est si facile.
Ce fut mon tour d'être piqué au vif.
C'est toi qui m'as abandonné, sans même un mot d'adieu, avec l'autre marin, là, Jade. Tu croyais que je n'étais pas au courant? J'étais là, Molly. Je t'ai vu prendre son bras et t'en aller avec lui. Pourquoi n'être pas venu me voir avant de partir avec lui? Tu peux me le dire?
Elle se raidit.
J'avais des plans d'avenir autrefois, et tout d'un coup, sans y être préparé, je me suis retrouvé endetté jusqu'au cou. Tu t'imagines peut-être que j'étais au fait des dettes qu'avait contracté mon père, mais que je me bouchais les yeux? Non. Les créanciers ont attendu qu'il soit mort et enterré pour frapper à la porte. J'ai tout perdu. Aurais-je dû venir te trouver comme une mendiante dans l'espoir que tu me donnes asile? Je croyais que tu avais de l'affection pour moi.
Je croyais que tu voulais...
Mais elle te foudroie.
Pourquoi faut-il que je te l'avoue?
Ses yeux me cinglaient comme une pluie de pierre. Je savais qu'elle avait les yeux étincelants et les joues en feu.
Je croyais que tu voulais m'épouser, que tu voulais vivre avec moi. Et moi, je voulais y contribuer, ne pas me présenter à toi sans le sou et sans avenir.
Je nous voyais propriétaires d'une petite boutique, moi m'occupant de mes bougies, de mes herbes et de mon miel, et toi avec ton savoir-faire de scribe. C'est pour ça que je suis allé chez mon cousin pour lui emprunter de l'argent. Il n'en avait pas à me prêter. Mais il s'est arrangé pour que je vienne à Vasbey afin de parler avec son frère aîné, Silex. Je t'ai déjà raconté comment ça s'est terminé. Je suis revenu ici sur un bateau de pêche, en travaillant pour payer ma place, le nouveau, à vider les poissons et à les mettre dans la saumure. Je suis revenu à Castelserre comme un chien battu. J'ai ravalé ma fierté. Je suis monté au château, et là, j'ai mesuré l'étendue de ma bêtise. J'ai compris que tu m'avais joué la comédie, que tu m'avais menti. Tu es un salaud, le nouveau. Un salaud. Un moment, j'entendis un son sans parvenir à l'identifier. Puis cela me revint. Elle pleurait à petits sanglots. Je savais que si j'essayais de me lever pour m'approcher d'elle, j'allais m'affaler à plat ventre. Ou bien, si j'arrivais à l'atteindre, elle m'étendrait d'un coup de poing. Alors aussi bête qu'un ivrogne, je demandais. « Et Jade, tu n'avais pas l'air de te trouver difficile d'aller avec lui. Pourquoi n'es-tu pas venu me trouver d'abord ?»« Je te l'ai dit, c'est mon cousin, crétin !» Sa colère flamboyait à travers ses larmes. « Quand on a des ennuis, on s'adresse à la famille. Je lui ai demandé de m'aider, et il m'a emmené dans la ferme de ses parents pour donner un coup de main pendant les moissons. » Un instant de silence, puis incrédule. « Qu'est-ce que tu t'imaginais? Que j'étais le genre de femme qui pouvait avoir un autre homme de côté ?» Glacial. « Que je te laisserais me faire la cour tout en fréquentant quelqu'un d'autre ?»« Non, je n'ai jamais prétendu ça. Naturellement. » À sa voix, on eût dit que tout devenait soudain clair. « Tu es comme mon père. Il était toujours persuadé que je mentais parce qu'il mentait sans arrêt, comme toi. Mais non, je ne suis pas ivre, alors que tu pues le vin et que tu tiens à peine debout. Et cette histoire ridicule. Je t'ai vu en rêve à Vasbey. Tout le monde savait en ville que j'étais allé à Vasbey. Tu as dû en entendre parler ce soir même dans une taverne. Non, Molly. Il faut que tu me croies. »
J'agrippais les couvertures du lit pour m'affermir sur mes pieds. Elle m'avait tourné le dos.
Non, je n'ai plus à croire qui que ce soit.
Elle se tut, comme pour réfléchir.
Tu sais, une fois, il y a longtemps, quand j'étais toute petite, c'était avant même de te connaître.
Elle prenait peu à peu une voix étrangement calme. Monocorde, mais calme. C'était à la fête du printemps. Je me rappelle que j'ai demandé quelques sous à mon papa pour les baraques foraines. Il m'a giflé en disant qu'il n'allait pas gaspiller son argent pour de telles bêtises. Et puis, il m'a enfermé dans la boutique, et il est parti boire. Mais à cette époque-là déjà, je savais comment sortir, et je suis quand même allé aux baraques, rien que pour les voir. Dans l'une, il y avait un vieil homme qui lisait l'avenir dans les cristaux. Tu sais comment ça marche? On tient le cristal devant la lumière d'une bougie, et on te dit ton avenir selon la façon dont les couleurs tombent sur ton visage. » Elle s'interrompit. « Je sais. » Je connaissais ce genre de sorcier des haies dont elle parlait. J'avais vu la danse des lumières colorées sur les traits d'une femme aux yeux fermés. Mais pour le moment, c'était ceux de Molly que j'aurais voulu distinguer. Il me semblait que, si j'arrivais à croiser son regard, je saurais lui montrer la vérité dissimulée au fond de moi. J'aurais voulu avoir le courage de me lever, de m'approcher d'elle et d'essayer de la serrer contre moi, mais elle me croyait ivre, et je savais que je ne manquerais pas de trébucher. Je n'avais aucune envie de m'humilier encore devant elle.
Beaucoup de jeunes filles et de femmes se faisaient lire l'avenir, et moi je n'avais pas d'argent, et je ne pouvais que regarder. Au bout d'un moment, le vieux m'a remarqué. Il a dû me croire timide, et il m'a demandé si je ne voulais pas connaître mon destin. Alors, je me suis mise à pleurer parce que j'aurais bien voulu, mais que je n'avais pas un sou. Alors Brina, la poissonnière, a éclaté de rire, et elle a dit que ce n'était pas la peine que je paye pour ça, parce que tout le monde savait d'avance quel serait mon avenir. J'étais la fille d'un ivrogne. J'épouserai un ivrogne, et j'aurai beaucoup de petits ivrognes. Elle murmurait à présent. Tout le monde s'est mis à rire, même le vieux.
« Molly, » fis-je. Je crois qu'elle ne m'entendit même pas.
« Je n'ai toujours pas d'argent, » dit-elle d'une voix lente. « Mais, au moins, je sais que je ne serai jamais la femme d'un ivrogne. Je crois même que je n'ai pas envie d'être l'amie d'un ivrogne. » Tu dois m'écouter. Tu es injuste. Ma langue me trahit et je bredouillais. La porte claqua.
Ne savais pas que tu m'aimais de cette façon.
Terminai-je bêtement dans la chambre froide et vide. Les tremblements me reprirent, plus violents qu'avant. Mais il n'était pas question que je perde Molly aussi facilement cette fois-ci. Je me levai et parvins à faire deux pas avant que le sol ne se mette à tanguer et que je ne tombe à genoux. Je restai un instant sans bouger, la tête pendante comme un chien. Si je me lançais à la poursuite de Molly en rampant, cela ne l'impressionnerait guère favorablement. Elle me chasserait même à coups de pied, sans doute. Et cela dans l'éventualité où je la retrouverais. Je retournais tant bien que mal près de mon lit et y grimpais. Sans me déshabiller, je tirai un coin de couverture sur moi. Ma vision s'assombrit sur les bords, mais je ne m'endormis pas aussitôt. Allongé, immobile, je songeais à ma bêtise de l'été passé. J'avais courtisé une femme en croyant fréquenter une enfant. Ces 3 ans d'écart entre nous, j'y attachais une grande importance, mais dans le mauvais sens. Je pensais qu'elle me considérait comme un gosse, et je désespérais de conquérir son cœur. Du coup, je m'étais conduit en gamin au lieu de l'inciter à me voir comme un homme, et le gamin l'avait blessé, trompé, oui, trompé, et selon toute probabilité perdu pour toujours. L'obscurité se referma et les ténèbres s'installèrent partout, ne laissant subsister qu'une étincelle tournoyante. Elle avait aimé l'enfant et espéré une existence avec lui. Je m'accrochai à l'étincelle et sombrai dans le sommeil.